les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Rencontre avec Olivier Zaba, animé par Jérôme Momcilovitch, à l'issue de la projection de deux films courts, Kidding et Ne me touche pas.
Je voudrais qu'on commence de manière factuelle, pour situer un peu ces deux films, en commençant peut-être par Kidding, justement, puisque vous le présentez comme un film inachevé, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez tourné ces images-là et quelle était l'idée de film ?
On peut se tutoyer.
On peut se tutoyer, on peut faire semblant.
Oui, en fait, j'ai eu l'opportunité de suivre un jeune combattant qui a été champion d'Europe en équipe de France et qui avait décidé de faire sa carrière de boxeur en Thaïlande. Ça fait partie des camps d'entraînement où il s'est entraîné. Et il a, en gros, il a... voilà. Donc je voulais faire un film dans ce lieu. Je pense que je dois avoir 100 ou 200 heures de rush dans le même lieu. Mais je n'ai pas trouvé l'issue au film, si ce n'est l'issue comme une impossibilité de déployer le travail. Plus loin que ce que je n'avais. Dans le sens où ce que je montre, ce que je donne à voir, se finit par une forme d'ambiguïté du rapport à l'image. Voilà. Mais peut-être que c'est un peu... Je fais un peu
on peut au contraire, saisissons le... Parce que quand tu dis que tu n'as pas pu...
C'est-à-dire, comment dire ? C'est une question d'apparition. Alors je ne sais pas comment on peut prendre cette discussion, mais c'est une question d'avoir un accès aux choses sans le langage, sans la compréhension d'une forme d'ordre ou de situation, et où petit à petit, la question de l'enfant apparaît. Voilà, c'est ça. Donc on a un endroit assez sportif, assez quelque part aussi avec une certaine forme d'esthétique, avec une forme, disons-le clairement, une forme d'exotisme de la lumière qu'on trouve dans le cinéma asiatique, notamment chez Happy Chatmong, des choses comme ça. Et finalement, derrière ce filtre esthétique apparaît une réalité qui est celle des enfants, et qui pose une question cinématographique qui est qu'en est-il au bout de 100 heures quand finalement je suis assez intégré, qu'on me propose de filmer ces combats d'enfants. Et finalement, c'est là que la prise de conscience se fait de la question de la marchandisation de la personne humaine et de l'enfant en l'occurrence. Voilà. Donc moi j'estime être à la frontière de ce qui basculerait dans une forme d'impossibilité. C'est-à-dire qu'on voit quelque part, on est dans un mécanisme qui est assez proche d'une forme de pornographie. Je ne veux pas non plus aller trop dans ce sens-là, mais on est dans la frontière dans le sens où effectivement on est dans un rapport quelque part de compulsivité. Et d'une forme de jouissance dans le pari, dans l'argent, face à un spectacle d'enfants qui plus est mime ou se prépare à être des combattants. Voilà. Alors c'est culturellement quelque chose qui est très qui apparaît et qui devient à un moment donné pratiquement une impossibilité.
Voilà. Si, justement c'est intéressant. Je pense à l'échelle de tous tes films, finalement, cette question de l'accès, c'est-à-dire l'accès au film à venir n'est pas forcément trouvé avec le filmage, quoi. Et on sent qu'il y a une... Tu cherches quelque chose qui est à la fois de l'ordre d'une... Enfin, t'es très soucieux d'une responsabilité morale face à ce que tu filmes, et justement de ce que cet accès va vouloir dire dans la manière dont tu regardes les gens. C'est quelque chose qu'on sent vraiment dans tous les films, même ceux qui sont achevés pour le coup, différent de celui-là, mais on sent qu'il y a tout un travail en amont qui se signale pas forcément, mais qui sert à tresser le film. Quoi.
Voilà. Oui, c'est en gros c'est ça, c'est-à-dire que toujours je commence toujours les films et je fais les films toujours sans a priori, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question, je ne pars pas sur une idée, on pourrait dire. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots parfois.
Conceptuel, peut-être, tu veux dire.
Non, justement, productiviste des images. D'accord. C'est-à-dire de rendre les images opérationnelles immédiatement. Je veux dire, effectivement, quand on a 200 heures de rush, qu'on a passé des journées, j'ai passé des journées entières à filmer.
Il pas valider un préconçu.
On ne cherche pas forcément, on ne se dit pas que le film a quelque chose d'intéressant. On peut filmer des choses merveilleuses, mais qui ne portent pas, qui n'ont pas a priori un potentiel cinématographique. Et la principale chose que j'ai essayé de, qui me posait problème, c'était justement la question esthétique, la question de la séduction de la lumière. Et là, on peut revenir peut-être sur le premier film, qui est quelque part 10 ans plus tôt. Le personnage de Fedin que tu reconnais.
Alors,
peut-être.
Voilà. Oui. pour information, donc si parmi vous certains et certaines n'ont pas vu Fading, qui est un autre des films d'Olivier, un des trois protagonistes de Ne me touche pas est un des deux principaux protagonistes de Fading.
Voilà. C'est toujours des histoires un peu familiales, quoi, puisque maintenant je suis.
On va en parler parce que c'est intéressant.
Voilà. Mais c'est-à-dire que je crois que j'ai filmé ces petites images en 2002-2003. On était à l'époque de la DV encore, et peut-être que là on peut parler de la question de
avant Fading, donc.
Avant Fading, bien avant Fading. C'était un gamin qui se battait à coups de nunchaku en dessous de chez moi, quoi, en gros. Voilà, donc avec un fort référencement sur la question de Bruce Lee, quoi, en gros. On est dans la gestuelle, dans la tentative de mimer Bruce Lee, donc on est dans cette question de représentation.
Dans le sens où, pour lui, ça venait par les films, cette envie de l'imaginaire du combat. Et...
Un gamin de 13 ans qui joue à massacrer son copain à coups de nunchaku, c'est qu'il a vu des Bruce Lee, quoi. Donc il y a cette question-là qui posait la question, d'après moi, qui est une question aussi, je ne veux pas rentrer trop dans une pseudo-théorie ou un peu quelque chose d'hasardeux, qui est l'évolution de l'image et qu'est-ce qu'on en fait de cette évolution depuis le numérique, en gros, depuis le moment où l'image DV nivelle complètement les pratiques et ne permet pas de proposer une esthétique en soi.
Parce qu'on filme beaucoup, parce que...
Non, parce que l'image devient indistincte et devient... universel. Dans les années 90, on disait les premières Sony qui sont sorties ont misé sur l'effet de réalité qu'ils ont gardé jusqu'à maintenant. Chez Sony, il y a cette recherche de l'effet de réalité plus que d'effet photographique qu'on a chez d'autres fabricants. Donc la DV permettait de faire les choses de manière indicielle, de manière invitée quelque part à trouver comment s'emparer d'une image neutre. Puisque l'image, indistinctement, on disait tous, ça ressemble à de la télé. Donc voilà, et finalement, il n'y a plus la question des chapelles qui se posent, d'une appartenance à un courant ou à un mouvement expérimental ou autre, à cause d'une image qui, d'un seul coup, nivelle tout.
Ça permet en quelque sorte d'éviter aussi le risque esthétique dont tu parlais un peu tout à l'heure.
Ça remet en cause la béquille esthétique, quelque part. Je ne sais pas si je m'engage sur une bonne voie à vous parler de ça, mais c'est celle avec laquelle j'ai compris comment se déployait le cinéma et comment, quelque part, dans le changement des formats, par exemple, peut-être je vais sur un terrain qui
peut... C'est très bien, vas-y.
Dans le changement des formats, le format 16:9, qui a été beaucoup convoité, est un format télévision. Et alors qu'on l'associe beaucoup, on le cherchait beaucoup comme un format de cinéma, qui tendait au cinéma. Et finalement, avec le temps, on se rend compte que ce qui, dans les années 90, favoriser une forme d'analyse de l'image chez des gens, je pense, comme comment il s'appelle, celui qui fait les remakes, l'artiste là,
Douglas Gordon,
plus jeune,
il est dans le public.
Excusez-moi, j'ai problème avec les noms.
dans la même Parrainot, Parrainot, oui. Pierre Huyghe.
Pierre Huyghe. Oui. Voilà, si on regarde les films de Pierre Huyghe, ce sont les premiers films, ces remakes de Hitchcock, sont des films très analytiques parce qu'effectivement, il ne peut pas mettre en jeu la question esthétique. Et plus on avance et plus les films deviennent, reprennent une espèce de convoitise, d'aura, d'une magie, de l'image cinématographique qu'on retrouve plus loin, par exemple, dans Zidane de Parrainot. Où d'un seul coup, le déploiement de l'individu...
Zidane, c'est l'inverse presque, c'est justement partir de l'image télé... Et...
Ils vont repartir du dispositif télé, de prendre les 17 caméras qui filment un match de foot et de mettre tous les moyens pour finalement arriver à une espèce d'allégeance totale au mirage cinématographique. Voilà, donc c'est à peu près dans ce champ de réflexion que je travaille surtout, que je prends en compte, que j'oublie jamais surtout.
Alors j'aimerais qu'on développe un peu sur la question de la rencontre avec les protagonistes de tes films, parce que très spontanément tu en as parlé tout de suite, à la fois du côté de ce jeune que tu as suivi jusqu'en Thaïlande et de Marco, c'est Marco, hein, c'est ça. Il me semble vraiment que c'est l'initiale de tous tes films, enfin, c'est forcément le point de départ des films, une rencontre, mais vraiment dans le sens le plus plein possible de ce terme-là. C'est-à-dire, et même la rencontre n'est pas encore la garantie d'un film, mais tu as besoin de ça, de cette rencontre-là.
Oui, mais la rencontre, c'est toujours la rencontre... ça peut être la rencontre humaine, mais croiser une notion qui est intéressante... Ça peut être, c'est toujours des choses qui sont des vecteurs. Évidemment, ce sont généralement des personnes qui sont, comment on pourrait dire, généralement, je filme des gens qui, sans rentrer dans le détail, chez qui je ne pense ne pas faire peur.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je préfère bosser avec des gens qui, comme Joko Aola, par exemple, qui est l'homme le plus fort du monde, parce que je sais qu'il ne sera pas impressionné, que j'ai toujours peur de malmener les gens. Donc c'est pour ça que je vais toujours aller chercher des situations où il y a des bonhommes, plutôt.
C'est vrai, en même temps, c'est pour le plaisir de la contradiction, tu es quand même aussi attiré par des gens qui, derrière cette apparence, en tout cas, de force et de violence comme ça, ont aussi une grande sensibilité, parfois un peu enfantine. D'ailleurs, je pense à Marco et Verlisier dans Fading, je pense à Yves, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même tu vas peut-être chercher ça, mais on sent qu'il y a quelque chose dans ton cinéma aussi qui a envie d'aller...
Ben, si on reprend par exemple l'exemple, mis à part la fin qui est de Kidding, donc la troisième partie qui nous met face à une réalité brutale et quasiment insupportable, si on prend la question du jeu, elle est là tout le temps. Elle est là dans la fin des combats, la fin de l'entraînement où les gamins se mettent en spectacle sur le ring avec une conscience absolue de la caméra, en sachant qu'eux-mêmes se considèrent comme des personnes de spectacle et aussi des moyens des moyens de subsistance pour leur propre famille. Notamment, on voit un gamin qui est très fort, qui vient de Malaisie, je crois, où la famille l'a envoyé pour qu'il devienne boxeur et qu'il fasse vivre sa famille. Voilà. Donc il y a ce rapport effectivement au jeu qui se mélange à une forme de brutalité. C'est vrai qu'on voit des gamins s'amuser, puis on en voit qu'on va prendre, ramasser au sol et mettre sur le côté. En France, il aurait droit, d'une part, c'est interdit, et un professionnel ou un amateur, on a un mois de convalescence cérébrale. Voilà.
Et alors justement, bon, alors ça c'est un peu le levier... idéal, j'ai envie de dire, pour parler de tout ton œuvre, c'est cette question du jeu, cette question... Alors peut-être, moi, le mot qui m'est venu en voyant ces films-là, c'est l'idée de la répétition. C'est-à-dire, répétition au sens où c'est un mot qui désigne à la fois ce qu'on fait avant, quand on répète quelque chose qui va arriver, donc typiquement l'entraînement dans Kidding, l'entraînement aussi, parce que c'est une forme d'entraînement, même s'il est très ludique, mais entre les jeunes hommes de Ne me touche pas. Et puis la répétition au sens où tu fais quand même souvent rejouer à tes protagonistes, enfin rejouer... Tu leur demandes d'incarner devant la caméra ce qu'ils sont, mais justement sur le mode de la reprise, quoi.
Je leur demande pas, justement. Excuse-moi. Non, je le demande jamais parce que Pour une simple raison, c'est quand on demande, de refaire une prise, on tombe dans un des mécanismes de mise en scène de fiction.
D'accord.
Voilà, ça très simplement. Donc ça veut dire que, en gros, moi, j'interviens très très peu dans la direction des films. Je ne parle pratiquement jamais. Voilà. Donc la parole n'est pas là. C'est ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens vont s'emparer d'un dispositif. Et je pense qu'on peut voir un rapport entre les deux gamins sur la fin du ring qui vont prendre une boxe thaï traditionnelle, donc une boxe thaï de démonstration, et faire un spectacle spontanément parce qu'ils savent qu'ils sont filmés, tout comme le mec en mobylette sait qu'il est filmé, et puis qu'il y a une espèce de jeu de gamin qui se met en place. Et en même temps, Marco trouve l'endroit où se placer, et je pense qu'il sait assez bien se placer sous la lumière pour créer quelque chose. Après, bien sûr, il y a les contingences comme la pluie, des choses comme ça qui appuient la chose. Et après, bien sûr, il y a qui étaient pour moi des pistes dans la compréhension. Par exemple, le fait qu'à un moment donné, la question du corps et du tournoiement du corps qui est propre à la boxe thaï se traduise par une forme de géométrie dans l'image. Voilà. Donc des allers-retours d'un seul coup, là, cette mécanique-là commençait à m'intéresser.
Voilà. Ça me rappelle d'ailleurs quelque chose que tu avais dit à l'époque où tu as montré Fading, où j'avais accompagné le film dans une projection. Et c'est un film, alors je situe, compliqué à raconter Fading, mais je situe un tout petit peu quelques enjeux pour que tout le monde comprenne bien ici. Pendant une partie du film, deux personnages, dont Marco qu'on voit ici dans Ne me touche pas, j'allais dire dans leur propre rôle, mais là je te fais déjà trop basculer dans la fiction, mais disons, l'un des deux est venu te voir, Marco, en t'expliquant que sur son lieu de travail, qui était un hospice psychiatrique, je ne sais pas si c'est un nom plus...
C'est un hôpital de
gériatrie
de fin de vie. Quoi.
D'accord.
C'est un hôpital, il travaille dans... Ce sont deux rondiers. Il est devenu surveillant, gardien, dans un hôpital de personnes en fin de vie. Voilà, de personnes âgées en fin de vie. Voilà, de gériatrie, donc.
Et dans ce lieu-là, dans les sous-sols de ce lieu-là, l'un des deux, donc l'autre, qui s'appelle Verlizier, a vu et entendu une présence. Il est convaincu, en tout cas, qu'il a vu quelque chose, fantomatique, pour le moins. Et donc, Olivier les suit tous les deux dans ces couloirs-là. Et les gens, à l'époque où tu montrais ce film, souvent les gens étaient un peu bousculés par le fait que, par moment, on voit bien qu'il y a un découpage, un petit peu quand même, dans le film, qui excède le réel, le présent de la situation. Donc il y avait beaucoup de questions sur le fait, mais est-ce que vous faites de la fiction, est-ce que vous faites du documentaire? Et tu avais fait une réponse qui me semblait à la fois lumineuse et très belle. C'est que tu disais, eux, ils font une fiction, moi je fais un documentaire. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez valide pour...
Oui, parce que je pense que de toute manière, on a un modèle dominant maintenant de fiction. Le plus gros modèle dominant de fiction est la télé-réalité, en gros. Mmh. Voilà, ce qui est un phénomène massif et d'inhibition, d'uniformisation et d'inhibition de la fiction. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas tant l'opposition fiction-documentaire, même si effectivement elle est là, mais c'est-à-dire qu'il y a une confusion à un moment donné. Je crois que mes films, y compris ceux-là, mettent en jeu la possible convivence, je ne sais pas comment on dit, proximité, trouble qu'il peut y avoir entre des méthodes documentaires et des méthodes de tournage de fiction. Et là, j'en viens à ce que je dis, c'est-à-dire la question du découpage, la question de prendre son temps, où Fading, que vous verrez peut-être, est un film très calme, où en fait, les gens ne croient pas que c'est un documentaire parce qu'il y a des champs, contre-champs, parce que on est dans un dispositif qui paraît préconstruit. Voilà, et j'en reviens toujours à cette chose que pour se rendre invisible, ça demande énormément d'efforts physiques. Voilà ce que je peux dire. Après, c'est une propre, effectivement, peut-être ce qui m'intéresse dans la question du combat, c'est aussi la question de comment on travaille la question du corps, là, comment on travaille la question de la confrontation, qui est une question aussi qui me touche par rapport à la question cinématographique. Je pars peut-être un peu dans tous les sens.
Mais c'était un autre sujet, mais on va tous les aborder d'un coup. Et puis, justement, sur cette question du combat, il y a un truc qui me semble là aussi éloquent dans Ne me touche pas, c'est que, et d'ailleurs le titre en rend compte, c'est que c'est une simulation de combat, et le coup, finalement, qui est un peu le pivot de tout ça, n'est jamais vraiment donné, justement. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça dit quelque chose d'un endroit qui t'intéresse particulièrement, c'est-à-dire un endroit de point de contact. On est toujours dans l'imminence de, je pense au démineur, dans Miguel et l'Émile et dans Un tiers des yeux. Vraiment cette idée, tu parlais de frontière tout à l'heure, et très souvent quand on discute de tes films, on revient à cette idée-là, la frontière, le contraste, le basculement. Et j'ai l'impression, pour essayer de continuer de répondre à la première question, qu'est-ce qui guide ton regard quand tu filmes, quand tu montes, etc., que tu es assez naturellement attiré vers ces endroits un peu charnières où ça bascule comme ça.
Bien sûr, mais à un moment donné, c'est vrai que si, quand ça bascule, comme c'est le cas dans Silent Minute, où une personne a un arrêt cardiaque, je me permets de le filmer. Après, on est toujours dans des questions qui sont un peu de l'ordre déontologique, de l'éthique, mais j'essaie toujours de renverser les choses. Je me dis, est-ce qu'on voit une personne en train de mourir ou est-ce qu'on voit une personne en train d'être sauvée ? C'est un peu toujours cette frontière dans laquelle je suis, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut être outré que je filme la réanimation d'une personne en arrêt cardiaque, mais on peut aussi voir la question du retour à la vie, quelque part. Donc c'est des questions aussi que j'ai évoquées dans la masterclass, la question des frontières et de la transgression des frontières qu'on peut avoir, et à quel point les frontières sont... J'ai un ami qui s'appelle Weiss Strachman, qui est sculpteur, et il dit une phrase que j'adore. Il dit « L'artiste oscille toujours entre autocratie et démocratie ». Et je trouve que ça résume très bien la liberté qu'on a dans l'atelier, qui est l'autocratie, et le moment où on va sortir de l'atelier, qui est le moment de démocratie. Voilà. Donc j'ai encore perdu le fil une fois de plus, mais voilà.
Il est là quand même. Revenons un peu sur la force, le combat, la violence, parce que je pense qu'on est obligé d'aller un tout petit peu plus loin de ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais simplement « j'ai besoin de gens qui n'ont pas peur de moi ». Je pense qu'il n'y a pas que ça. Dans Miguel et les mines, il y avait déjà le combat, il y avait déjà la boxe. Perspective du sous-sol, c'était voilà.
Je pense qu'on peut aller sur ton terrain, Jérôme, puisque tu as écrit sur
Schwarzenegger. Oui. Non, on a beaucoup parlé. Non, mais surtout, toi-même, tu reviens régulièrement à ce sujet-là pour situer un moment un peu épiphanique. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est dans un des entretiens que tu as donné et qu'on peut trouver, mais qui est intéressant. Il n'empêche que tu as je ne suis pas sûr que fascination soit le mot juste. En tout cas, les films ne sont pas fascinés, eux, toi peut-être. Mais qu'est-ce qui t'intéresse pour le coup, je dirais dans ce spectacle de la force, parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est quand même de la représentation de la force.
C'est ce que j'ai expliqué aussi. Pardon, je ne veux pas dire que tu m'obliges, mais pour ceux qui m'ont entendu, la masterclass, excusez-moi s'il y a des redites surtout, mais c'est la question du phénomène, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit dans le premier film d'Herzog aussi. Voilà, tu vois. C'est la question du phénomène qui m'intéresse plus que la question de la représentation. C'est la combinaison de la représentation et du phénomène.
Comment est-ce que tu, pardon de pinailler sur les mots, mais comment est-ce que tu définirais ce mot-là de phénomène tel que tu l'emploies ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Par exemple, je vais citer un film qui n'a pas été encore montré, qui s'appelle Perspective du sous-sol, voilà, qui a été fait avec un acteur qui s'appelle Joukoua Ola, qui fait partie du mouvement des strong men, c'est-à-dire des hommes de foire en Angleterre, l'homme les plus forts du monde qui vont soulever des bagnoles, des poids, qui vont arracher des trucs avec des dents, tirer des trains, des espèces de foires, de forains comme ça. Et Joukoua Ola a eu j'avais eu l'occasion de le rencontrer, je ne sais plus comment, et Joukoua Ola avait eu... Werner Herzog cherchait quelqu'un pour son film Invincible, qui est un film absolument magnifique, je trouve. Il cherchait quelqu'un pour incarner ce héros du colosse juif qui se cache dans le Troisième Reich et qui meurt avec une petite blessure. Et il avait trouvé Joukoua Ola. Donc, Juko Aola, qui était un homme de spectacle, un homme d'expression du corps, qui pour qui, littéralement, dans le film, il dit « Moi, je dois me tuer tous les jours pour être un bon acteur. » C'est-à-dire que pour lui, l'acteur est une question de force. Il est dans la question du phénomène de foire, littéralement. Et sans mépris, mais il est dans cette relation-là. Ce phénomène de foire, et là, je vais peut-être un peu aller peut-être dans une forme de théorisation, mais c'est comment la question de... On en revient à la question des modèles qu'on peut avoir de Bruce Lee chez Marco et qu'on peut avoir dans Perspective du sous-sol d'une personne dans les années 2000, qui a comme modèle de vie des personnes, des figures politiques du cinéma américain, en l'occurrence Schwarzenegger. Voilà. Et comment une personne comme ça, qui vit en Finlande, qui a eu un contact avec une forme de cinéma d'auteur, va continuer sa carrière. Et comment, quelque part, il porte en lui-même son obsolescence. Bon, excuse-moi.
Vas-y.
Comment il porte son... Qu'en est-il d'une personne qui va réactiver une figure qui était fonctionnelle, qui s'est imposée selon des stratégies à Hollywood, qui s'est imposée selon des luttes sociales, selon la question de la VHS. Comment une personne comme ça va se prendre au pied de la lettre la question du modèle américain comme rêve de réussite, couplé à autre chose qui est, excusez-moi, je décris des choses non vues, mais couplé à la question de quelque chose qui touche peut-être la question de l'image ici, qui est que chaque image et chaque évolution de l'image nous fait régresser à un certain point. C'est-à-dire que la DV, quelque part, a neutralisé une forme d'esthétique pour nous amener quelque chose de nouveau. Donc il y a toujours, quand il y a une évolution technologique, il y a une perte, quelque part. Et plus on avance, et plus on se rend compte que la chose ultime qui est en train de se perdre en ce moment est la question de la salle, par exemple, la question du remplissage des salles. Donc finalement, les évolutions technologiques ont fait que les salles commencent à s'éteindre. Et Juko Aola, qui était un produit des années 80,
construit une salle,
construit cette image
dans son sous-sol. Je qu'on explique un peu pour les gens qui n'auraient pas vu le film. Alors c'est au-delà de ce qu'on appelle le home cinéma. Là, il se fait vraiment une salle de cinéma dans son sous-sol.
Voilà. Le film s'appelle Basement Perspective, donc c'est Perspective du sous-sol. Et effectivement, lui s'incarne comme une figure qu'il souhaite réactiver, mais qu'il ne sait pas comment, de quelle manière. Et en fait, il fait sa propre salle de cinéma comme une espèce de mausolée à son image dans sa propre cave. Et pour ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va convoiter un cinéma hollywoodien pour pouvoir se regarder dans sa cave. Donc on voit que la question de l'autoreprésentation n'est pas simplement la question de l'autofiction, mais nous amène sur des questions sociétales.
Et du coup, là aussi, c'est quelque chose qui traverse tous tes films, c'est que tu parlais des cirques de monstres tout à l'heure, des foires avec les strongmen, etc. Mais fondamentalement, l'idée du monstre, c'est l'idée de montrer, c'est l'idée de celui alors qu'on montre ou qui se montre. Et il y a quelque chose là aussi qui me semble rejoindre un peu cette rigueur morale qu'il y a dans tes films, c'est que tu montres toujours des gens qui se montrent, au sens où tu les laisses se montrer, et surtout tu veux les regarder se montrant, c'est-à-dire choisissant eux-mêmes comment ils se mettent en scène, comment ils se représentent, etc. Et c'est quelque chose qui est très frappant, je trouve, dans tes films, c'est qu'on te sent jamais toi les montrer, les désigner comme ça. C'est-à-dire que tu vas réunir au mieux les conditions pour qu'ils se montrent. Mais je pense aussi à Argument, dont on n'a pas parlé encore, qui s'intéresse aux entendeurs de voix. Alors, la question de la mise en scène, elle est très importante dans le film, et de leur côté, dans la pratique de celui qui organise des... Donc ces gens qui entendent des voix, qui s'appellent les entendeurs de voix, que la psychiatrie considère comme des psychotiques, et que le film ne range absolument pas dans cette case, et d'ailleurs dans aucune case, mais qui les montre en train de rejouer, de mettre en scène, en tout cas, l'envahissement de ces voix, comme ça, et de manière très... C'est vraiment de la mise en scène, littéralement, puisque dans l'espace, hein, Ron les installe comme ça, là, tu vas être cette voix-là, toi, celle-là, etc., etc. Et on a vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que les personnages se montrent eux-mêmes dans tes films, et toi, encore une fois, tu fabriques le cadre adéquat pour leur mise en scène, en quelque sorte.
C'est-à-dire, comment, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est que la question de la... pratiquement du réflexe face à la caméra, qui est neutralisé par le modèle en général de l'interview qui balaye toute forme de possibilité de déploiement d'une scène, finalement, c'est là que se fait le fait de s'auto-représenter, n'est pas simplement de créer des images pour une forme de dédoublement ou de jeu de représentation, mais comment ça se transforme, soit dans une idée qui touche une question de société, soit dans une et qui passe par une espèce tentative de comprendre où se situe le cinéma. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, ça veut dire que je reparle toujours de cette anecdote de Schwarzenegger sur lequel tu connais bien, je pense que je t'en ai parlé et que tu l'as lu. Une des grandes choses que j'ai comprises du cinéma, c'est en 87 ou 8, c'est dans les pays d'Amérique latine, donc entre le Venezuela, la Colombie, le Pérou, où j'ai beaucoup voyagé en car, dans les bus, quoi, dans les cars, dans les Andes. Et c'était l'époque de la VHS. C'était la grande époque, finalement, de la disparition, du début d'un phénomène qui était la VHS, l'image domestique, et du début d'un autre phénomène qui était la figurine, c'est-à-dire la figure matérielle des films par George Lucas, par le cinéma.
Les jouets.
Tu vois? En fait, ce cinéma reaganien, moi, je veux dire, en étant néophyte, ce qui était assez frappant dans les bus, dans les cars sud-américains, c'est que à l'avant de chaque car, il y avait une télé avec une VHS, et que que les VHS qui étaient montrés, c'était systématiquement Stallone et Schwarzenegger. Donc, quelque part, cette idée de Stallone comme figure politique n'était pas que symbolique, puisque finalement c'était comme chaque bus se transformait chaque car se transformait en car de propagande.
Oui, en Amérique.
Voilà. Et ça fait partie des compréhensions que j'ai eues qui reviennent à la question du phénomène. Voilà, parce que finalement, c'est voir un phénomène politique, un phénomène, oui, une construction politique à l'œuvre, et comment elle se met à l'œuvre dans des pays qui sortaient de la dictature, en gros, quoi. Le Brésil, c'est 85, la sortie de dictature. Donc, c'est comment le rapport de force.
C'est d'autant plus troublant, en plus, que ces films-là, souvent, mettaient en fiction l'emprise qu'avaient effectivement les États-Unis sur la plupart de ces pays-là, quoi.
Bien sûr, oui. Ouais, qui a duré jusque dans les années 90 avec tout un cinéma de distraction avec Harrison Ford sur les méfaits de voilà.
Je voudrais alors, te poser une dernière question avant de passer la parole au public. Question un peu thématique là aussi. Alors, je sais que c'est pas les plus faciles pour les cinéastes, mais je peux pas passer à côté. Les sous-sols, on en parlait là, avec Perspective du sous-sol, qui d'ailleurs, si je me souviens bien, reprend en préambule un extrait d'un texte célèbre de Dostoïevski qui s'appelle Les carnets du sous-sol. Fading se passe en grande partie dans des sous-sols et ne me touche pas. Donc, tu parlais de la pluie, de tout ça d'ailleurs. Tout à l'heure, il y a quand même un cadre qui est pas anodin. Ton cinéma est attiré par les souterrains, par les sous-sols, peut-être aussi de manière un peu métaphorique. Est-ce que c'est quelque chose que j'imagine, tu ne suis pas sciemment, mais enfin, il y a quand même quelque chose de très souterrain là-dedans.
Je ne sais pas, c'est ce que tu demandes là, c'est genre, c'est une analyse très
Je
difficile
sais.
Parce que ça voudrait dire.
Je veux savoir ce que toi tu en penses, en tout cas.
Moi,
C'est-à-dire,
je pense
est-ce que.
qu'effectivement, je crois que littéralement, il y a deux choses. Je pense que l'univers d'un auteur ou d'un artiste n'est pas protéiforme et n'est pas extrêmement large. Ça, je le dis toujours. On a toujours, à mes étudiants, je leur dis toujours, vous cherchez à être originaux, mais non, vous allez voir que dans 10 ans, ce que vous avez fait, ça n'est pas vraiment différent de ce que vous avez fait. On n'est pas des Léonard de Vinci, très peu, quoi. Donc, on a des choses comme ça qui sont récurrentes. Après, la question du pourquoi, c'est une question sur laquelle je c'est pas envers toi, mais je me refuse
Non, mais
d'en parler,
je voulais pas
parce que
psychanalyser tes films, hein, mais.
La question de l'intention et finalement, ou de la fascination, et ça, j'en reviens au premier film que j'ai fait qui s'appelle Zona West, où on était effectivement là carrément dans la clandestinité et pas dans le souterrain.
Zona West, qui est un film, pardon, je raconte un tout petit peu à chaque fois, qui est un. Enfin, peut-être que tu le
qui est un
connais
film
moins.
Fait avec des narcotrafiquants, donc des personnes qui ne peuvent pouvaient pas montrer leur corps à l'image, de peur de
leur visage,
oui, et qui essayaient de cacher leurs tatouages, de cacher leur stigmate de bandit. Et ce qui est assez drôle, et j'en viens peut-être pour essayer de faire un pont entre les images des années 90, où à l'époque la caméra avait encore un rôle de une portée quelque part. J'ai revu quelque part, moi, les personnes que j'ai filmées dans Zona Ouest étaient des personnes qui se cachaient et qui s'adressaient au monde entier par la caméra. La caméra était une lucarne pour parler au monde.
Et qui, là, pour le coup, se mettait vraiment en scène.
Voilà,
vraiment dans la représentation.
Et puis, je suis allé revoir un peu les vidéos de YouTube qu'on pouvait trouver des narcotrafiquants de Rio ces dernières années. Et ce qui est assez flagrant, c'est qu'il y a un inversement de la figure, c'est-à-dire que Zona Ouest est un film qui a été fait dans la clandestinité, donc avec des personnes dos au mur, où on ne voit pas de paysage, où on ne voit pas de visage, où ils sont armés, mais simplement, si on regarde maintenant sur YouTube, on voit des bandits à visage découvert, avec de l'horizon, qui donnent sur Copacabana, totalement repérables, et qui s'adressent non pas au monde, mais à la patrouille qui va venir le soir. Et tout ça par YouTube. Donc on est dans quelque chose qui est assez vertigineux et qui rejoint quelque part la question de Juko Aola et qui rejoint aussi la question de la Thaïlande et du parking quelque part. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où le aller loin nous ramène à la proximité. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'était d'autant plus flagrant que le monde entier peut voir un conflit qui se termine bien sûr par la mort entre les narcos et les flics. Ça se termine inévitablement, fatalement par des morts brutales. Et en fait, le monde entier a accès à une guerre de quartier. Mmh. Voilà. Ouais. Ou même de guerre d'individus. Je ne sais pas si j'ai été un peu embrouillé.
Non. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Je l'ai arrêté parce que je ne trouvais pas d'issue au film. Parce que aussi pour des raisons personnelles, des raisons familiales, et parce qu'à un moment donné, le constat de l'usage du corps et de l'utilisation du corps en Thaïlande, qui semble naturel, par exemple, chez les parieurs, ne relevait pas de ma culture et je ne pouvais pas le traiter quelque part. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai vu les combats d'enfants, j'ai eu cette chose extrêmement brutale de gamins que j'avais vu s'entraîner et qui jouaient finalement, même s'ils étaient parfois un peu sonnés, mais quand même ils étaient toujours dans une gaieté. Et là, ce qu'on voit, c'est la brutalité de la mise en spectacle et la réalité de la mise en spectacle qui est l'aboutissement systématique de tout entraînement de boxeur en Thaïlande. Et cette réalité-là, à un moment, je ne me sentais tout simplement pas de continuer dans ce registre-là.
Mais néanmoins, il y a 3 ou 4 films. Comment dire, vous avez gardé le film morcelé.
Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe.
Non, je casse encore autre chose.
De la forme fragmentaire comme ça qui.
Oui, j'ai pris. J'ai pris trois c'est pas trois échantillons, c'est 3 petits films autonomes qui sont faits selon des modalités particulières. La première, c'est comment finalement d'une espèce de film qui est basé sur avant tout sur la question sonore pratiquement et rythmique, puisque finalement c'est le son qui gouverne qui va donner un peu la temporalité du film. C'est aussi toute une journée d'entraînement. Ça veut dire que le premier film est une journée d'entraînement, et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était comment du passage du chaos ou de la chorégraphie ou du spectacle un peu d'un corps épanoui se traduisait par une notion très géométrique. Voilà, exactement, avec un croisement, et d'un seul coup, c'est ces choses-là, c'est ce type d'apparition qui m'intéresse. Voilà. Dans la deuxième partie, ce qui m'intéressait, c'était que quelque part, on avait une scène qui est du burlesque, tout simplement, au sens littéral, l'arroseur arrosé, en gros. Une scène où tout le monde rigole, mais tout le monde rigole autour de la question de l'argent. Et puis la troisième partie, c'est comment est mise en jeu la question de l'argent. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire sur la structure.
Voilà. En tout cas, ça nous permet de parler d'une chose qui est quand même très importante, justement, c'est cette question du fragment ou de la séquence. C'est-à-dire, justement, ce film ne s'est pas fait, néanmoins, tu montres ces trois fragments qui sont à la fois liés et autonomes. Et tes films, et notamment, on va dire la première moitié de ta filmographie, étaient très, très modulaires, on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire des fragments qui communiquent les uns avec les autres, mais sans que tu donnes le mode d'emploi, disons. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Tu parles d'apparition, on a vraiment le sentiment que ça commence toujours chez toi. C'est très important, l'idée de la scène. Encore une fois, je ne sais pas quel serait le mot juste entre la scène, la séquence, mais quelque chose d'un peu insulaire comme ça.
Si on peut parler du documentaire, moi je considère toujours que le documentaire a un long travail de patience, pas simplement de patience, parce que là on est dans l'attente de la captation du zoologue qui va attendre dans ça, mais dans le travail, dans l'hypothèse d'un futur immédiat. C'est-à-dire qu'on va en documentaire, on travaille toujours sur le moment où va apparaître la scène. C'est le moment d'un seul coup où
on attend quelque chose,
ou quelque chose où il y aura une transformation. Par exemple, l'irruption de la géométrie dans le film. Très simple, une chose qui en soi, je trouve, moi, me stimulait beaucoup, dans le sens où ça permet de comprendre, ne serait-ce que formellement, j'ai pas peur de le dire, de basculer d'une forme d'esthétique exotique vers une forme un formalisme sur lequel je peux m'appuyer pour développer quelque chose.
C'est très composé de votre part, cette géométrie dont vous parlez, à partir des plans filmés.
La géométrie, par exemple, le gamin qui se met à courir d'avant en arrière. C'est pas composé, ça fait partie de l'entraînement. C'est à partir de ce qui se passe, comment on se trouve par rapport à des choses qui nous amènent à un certain type de filmage et qui font un écho. Par exemple, si on regarde cette scène-là, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Il y a un autre gamin qui s'incruste dans le champ et qui mime la caméra. Je sais pas si vous l'avez vu, qui se met en miroir et qui mime la caméra, et en plus qui fait une espèce de prière en entendant passer une ambulance hors champ. Voilà. Et tout ça, c'est effectivement un des moments où, en tant que cinéaste, on a besoin d'un certain type de repères sur lesquels on est confortable pour pouvoir développer une chose. Sinon, je me suis beaucoup senti dépassé par le surplus de lumière, d'esthétique, de son, de choses comme ça, de situation et d'incompréhension culturelle. Voilà. Donc c'est toujours cette recherche-là d'une zone qui est finalement une zone assez abstraite.
Presque, en extrapolant un peu ce qu'on disait tout à l'heure, presque le moment où le réel se met en scène tout seul, quoi. C'est-à-dire
où le réel nous offre la possibilité de la scène, pour être plus précis. Non, je ne veux pas dire que c'est comme ça que je le conçois, pour être... voilà. C'est-à-dire que finalement, c'est la question de la métamorphose permanente dont je parle toujours. Et cette chose que je répète toujours, excusez-moi pour s'il y a des étudiants, contrairement à la photographie où l'acte de production d'une photographie est l'aboutissement de quelque chose de, comment on pourrait dire, performatif. On appuie sur le déclencheur et quand on cherche le cadre, on va chercher la situation et finalement on va travailler. L'acte photographique en soi va être conclu par le déclencheur qui sera moins d'une seconde. Et quand on travaille avec une caméra, à partir du moment où on déclenche, on rentre dans un processus de travail sur la métamorphose du réel, voilà, qui commence pratiquement à la seconde. Voilà. Peut-être moins, si on peut aller moins que ça, mais en gros, c'est ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ?
Merci. Je me demandais, parce que vous avez parlé de la construction de vos personnages et aussi de vos histoires, parce que vous partiez du coup dans le champ, sur le champ, sans avoir vraiment construit un préavis sur l'histoire. Comment ça se construit? Est-ce qu'au fur et à mesure, vous écrivez tous les jours? Est-ce que vous avez un moyen de construction? Ou est-ce que ça se fait vraiment au montage? Je voulais concevoir un peu mieux comment vous le faites.
Je pense que à partir du moment où on regarde ces images, on les connaît. Après, je ne sais pas dans comment je peux vous éclairer par rapport à cette question, mais la question de l'écriture, moi, je ne suis pas littéraire du tout. Je n'ai jamais fait d'études. Je me suis arrêté en première, en gros. Donc, je suis loin de moi l'idée même de prendre un stylo pour écrire une histoire, quelque part. Mais donc, l'écriture, elle me gêne plus qu'autre chose. Dans un film, à la rigueur, j'aurais besoin d'un post-it ou deux pour me dire comment j'organise deux, trois scènes. Voilà, c'est que finalement, le travail du montage permet, et ça aussi, c'est pour ça que on en parlait souvent de la question du montage, c'est pour ça que je travaille beaucoup le montage simultanément au tournage ou tout de suite après, quelle que soit la nature de la scène que j'ai tournée, même si c'est une scène que je sais que je n'utiliserai pas, parce qu'elle me permet de mémoriser le montage permet de mémoriser ce qu'on fait finalement. Et quelque part, le montage, et là j'en reviens peut-être à comment je peux m'emparer de la question du langage ou de l'écriture, c'est-à-dire que le montage permet de mémoriser son film ou sa scène comme un acteur apprendrait un texte. Donc, c'est-à-dire qu'un montage, je sais, cette idée du montage où on dérush, on enlève les déchets et on garde que les scènes qui sont bonnes, je travaille pas comme ça. Je considère que j'enlève, je vais faire 10 passages et sur chaque passage, je vais enlever une seconde. Mais alors, ça va être 10 visionnages pour une scène de 20 minutes. Mais je sais qu'au bout de la 20e fois où j'aurai vu la scène, je l'aurai en tête. Donc j'ai plus besoin de papier puisque le film, je l'ai en tête naturellement, et les notions finalement qu'on peut développer d'une scène. Là, c'est un exemple peut-être avec j'en reviens à la question de la géométrie ou de la lumière de chez Marco. Si on regarde cette association qui a été faite par vous, et je trouve qu'elle est très bien, vous programmateurs, c'est de voir que la question de la mise en place spontanée d'une scène où il y a des questions de lumière, de son, de personnage et d'une forme de minimalisme du geste, parce que c'est finalement ce qui se passe, c'est comment des gamins qui s'amusent, ça va se transformer en une forme d'abstraction, qui est le ballon qui devient un corps, et puis finalement le conflit se traduit par un geste pratiquement dans l'immobilité du corps, avec un son de pluie. C'est des choses qui... C'est avec ça que je construis mes films. Voilà. Et de la même manière, le formalisme ou la géométrie qui se met en place m'intéresse beaucoup. Ou la question du gag, la question du burlesque peut aussi être une piste pour comprendre la nature du film qu'on est en train de faire. C'est parce que le film n'est pas destiné avant tout à être montré, il est destiné à être un document de travail pour le cinéaste. Et si cette notion-là est bannie, on ne fait que communiquer des images qu'on a mal vues. Voilà. Excusez-moi, c'est peut-être l'usage du « on » est toujours généralisant. Je pense ça. Voilà.
Il y avait une autre question, je crois, dans le coin. Oui. D'accord.
En fait, je devrais à peu près. Je peux prolonger, mais je veux pas aussi rentrer partout.
Non, mais cette question, en plus, bon, cinéma du réel, cette question d'attendre que le réel se transforme, ça me semble quand même un objet de discussion.
Bien sûr, mais le réel se transforme aussi avec la transformation, les transformations économiques, avec les transformations technologiques, avec les transformations de l'image, avec la capacité qu'on a à Moi, j'ai toujours en tête, par exemple, là, aux étudiants, j'aime beaucoup montrer les 12 images de Démeny, qui sont les Je vous aime.
De Georges Démeny et Étienne Jules Marais, pardon.
Étienne Jules Marais, ouais. Voilà.
Qui, en gros, c'est. Démeny et Étienne Jules Marais, qui étaient un peu des pionniers du cinéma, avant le cinématographe, on va dire, et qui travaillaient sur la chronophotographie. Il y a un film de d'ailleurs, c'est Démeny tout seul, hein, je crois, je ne suis pas sûr, celui-là, je ne sais plus.
C'est Démeny qui l'a fait. Il a les yeux fermés parce que la lumière est très forte.
Il dit, on le voit simplement, il dit « je t'aime », il articule « je t'aime ».
Je vous aime.
Je vous aime, pardon. Voilà.
Et en fait, c'est des images muettes qui n'étaient pas encore, on n'en était pas au stade de l'animation, mais qui étaient la photographie en série, la décomposition donc, de chaque syllabe. Et en fait, on voit, ça se trouve sur Internet, on voit Georges Démeny, les yeux fermés, en train de dire « je vous aime » en muet. Et ces images étaient... Et c'est un des très beaux paradoxes dans plusieurs sens, c'est-à-dire que chez Démeny, ces images de cinéma muet étaient faites en premier recours, ont été pensées pour développer la question du langage et de la communication avec les sourds. Donc il y a quelque chose qui montre l'ambiguïté et la pertinence dans laquelle se trouve le cinéma. Il y a une autre ambiguïté dans la relation de ces images de Démeny et de Jules-Étienne Marais, c'est que Marais ne voulait utiliser les images comme un moyen de décomposer. On en vient à la question du ralenti, par exemple, tout simplement. Le ralenti est un moyen de voir le réel qu'on ne voit pas, mais c'est en même temps une figure esthétique assez répandue. Et en fait, Démeny s'est fait virer par Jules Marais parce que Démeny, ce qui l'intéressait, lui, c'était de recomposer le mouvement. Voilà. Donc d'aller vers la question du spectacle, quelque part. Alors que Étienne Jules Marais, en tant que médecin, voulait rester dans la sphère de la recherche scientifique. Quoi.
Une autre question. Je pensais juste, en attendant peut-être, quand je parlais de transformation du réel, je pensais vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, dans l'idée de ce que tu attends en quelque sorte. Vas-y, vas-y.
Juste parce que j'oubliais la deuxième partie de ce que je dis à mes étudiants, je leur dis que ça c'était avant le XXe siècle, et que si on regarde les dernières images de Mars, où moi il y a quelque chose que j'ai trouvé merveilleux, c'est quand ils ont... annoncer le son de la sonde, je ne sais plus comment, qui s'est posée sur la comète Philae, et que le son était juste, c'était ça, et qu'on voit qu'en un siècle, plus d'un siècle et demi, finalement on s'extasie de la même manière qu'on pouvait s'extasier devant les 12 images de Démeny. Et ça, c'est cet écart en fait dans lequel qui est toujours remis en question, c'est-à-dire que chaque évolution va proposer une régression. C'est ce qu'on a par exemple dans Fedding, où Mirek, qui est donc une personne qui a un des premiers téléphones portables où on fait des photos, donc dans les années 2008, n'a un usage uniquement d'autoportrait par rapport à son téléphone. Et c'est un moment où, dans les années 2000, la question de la communication d'une image est plus importante que l'image elle-même. Donc de communiquer 4 pixels qui font voir de près de quelque part un visage est une étape qui fait régresser la question de la définition de l'image au profit de sa communication. Et donc tout est toujours reformulé il y a des vases communs, je ne sais pas comment dire, il y a des espèces de régression qui sont
des archaïsmes qui persistent aussi du coup.
Il y a un archaïsme nécessaire pour que ça progresse. Voilà. Le retour d'un archaïsme pour que les choses progressent.
Non, je pensais juste, pardon, je vais revenir un tout petit peu en détail sur Kidding, c'est que quand tu parlais de la transformation du réel, mais là sous l'œil de la caméra du cinéaste, les choses qui voilà, c'est que il y a une chose qui m'a toujours frappé dans tes films et qu'on retrouve là, c'est, je parlais tout à l'heure de frontières, de contrastes, c'est toujours quelque chose de très dialectique, quoi. C'est-à-dire qu'une chose peut être une chose et peut-être pas son contraire, mais enfin autre chose en tout cas. Et Et ici, on peut avoir l'impression au début du film qu'on a, encore d'autant plus culturellement, nous ne connaissant pas très bien ces combats-là, encore une fois, comme tu disais, chez nous, ces combats sont interdits, ces combats d'enfants, etc. On a l'impression qu'on a d'un côté l'enfance, de l'autre côté la violence, et que la rencontre des deux, et voilà. Et en même temps, il y a une forme d'excitation enfantine, par exemple, qu'on va retrouver aussi chez les adultes à un moment où il y a une sorte de frénésie comme ça, qui fait écho au jeu des enfants. Et on a vraiment l'impression que ça circule un petit peu constamment, finalement. Non seulement le film ne vient pas du tout valider nos a priori, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais en plus, il a tendance à nous ouvrir un peu d'autres possibilités de perception de ce qu'on voit, quoi.
Là, on en revient presque à la question du burlesque et de la cruauté qui se mélange avec le rire.
Oui.
Peut-être. Je ne suis pas théoricien, je le dis toujours. Mais voilà, une petite analyse sauvage qui est celle-ci. Quoi. Et je pense qu'après, je ne veux pas parler mes films, mais c'est vrai que dans tous mes films, il y a une question de mélange à un moment donné de quelque chose qui relève de la comédie et qui, dans des situations qui sont généralement extrêmement dures. Voilà, je crois que c'est le propre de mon travail, même dans Zona West, qui est le film qui est qualifié comme le entre guillemets le plus auto-satisfait dans la question de la violence ou dans une supposée
commission
ou ce genre de conneries.
T'intéresses ça au film, c'est intéressant de le raconter quand même, mais depuis, parce qu'il t'arrive quand même souvent de retravailler le montage de tes films après coup, là c'est un détail mais qui est assez éloquent quand même, c'est que tu as intégré un commentaire justement de commission.
Et c'est là aussi la question du cinéaste revient de la même manière qu'elle revient chez Juko Aola en tant que phénomène, en tant que sujet d'un phénomène. Moi, je me souviens quand j'ai présenté Zona West au CNC, à la commission de classification, donc ce film sur les narcotrafiquants que vous verrez peut-être au réel, la commission de classification a pris un coup de sang visiblement a eu une relation extrêmement épidermique au film. Et j'ai reçu une lettre disant que le film était interdit aux moins de 12 ans, ce qui est bon. Ça va, mais le paradoxe c'est que je devais j'ai mis la phrase obligatoire, c'est-à-dire que je dois mentionner ce film montre avec complaisance et sans distance des jeunes qui font de leur vie, qui font du crime leur vie, quelque chose comme ça. Voilà, tout ça parce qu'il n'y a pas de cadre et tout ça parce que effectivement la question de jeunes qui ont 20 ans et qui sont armés est une chose qui paraît tellement absurde, armés qui vont jusqu'au meurtre, jusqu'à tuer, jusqu'à mutiler, est une chose qui paraît tellement absurde visuellement.
C'est-à-dire surtout que personne ne contredit leur mise en scène dans ton film, c'est ça aussi.
Si, il y a les flics, mais les flics contredisent très exactement de la même manière. Oui. Donc ils sont tous entre guillemets, c'est ça. Donc la question, elle est celle-ci, c'est-à-dire que finalement, dans Zona West, c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire que la marge d'action que j'avais par rapport à des gens qui étaient armés, qui étaient défoncés à la cocaïne, et ce sont des gamins. Et qu'effectivement, c'est inadmissible de voir des gamins de 17, 18, 19 ans et de les laisser à la libre appréciation des spectateurs. Mais en même temps, j'estime que toute personne, on est tous à un moment où on est en mesure d'apprécier la distance critique qui se crée. Et justement, une des choses dans ce film-là, excusez-moi encore une fois de parler d'un film que vous n'avez probablement pas vu, à la fin de la prestation, entre guillemets, de l'expression de leur force de clan, de force clanique, je filme 4 personnes et derrière moi, il y a 10 bandits qui regardent et qui sont ceux qui n'ont pas voulu participer. Et à la fin, ils applaudissent. Et ces applaudissements, c'est là que justement se trouve le nœud, je crois, quelque part. Ces applaudissements sont des applaudissements de la prestation de leurs camarades, de leurs copains, quoi. Et pas du tout une apologie des propos tenus. Voilà. Et c'est ce qui a créé cette relation épidermique que je laisse des bandits dans l'auto-célébration et l'auto-adulation.
Ils les encouragent en plus. Voilà. C'était ça le message un peu de la commission, quoi.
Voilà. Donc c'est toute la question, et j'en reviens à cette question du cadre, à cette question de la liberté qu'on se donne et à la question de la nécessité de se confronter à refuser la question de la... Comment on pourrait dire ? Je vais finir. À refuser la question de l'autre l'autocensure par le cadre. Voilà, qui est le, je parlais toujours de cette question de l'académisme qui est finalement le cadre et c'est ce qui va nous faire régresser dans la modernité, quelque part.
On approche de la fin de la séance. Il y a une toute dernière question. On peut la prendre in extremis. Et sinon, on va s'approcher de la conclusion. Est-ce qu'Olivier, toi, de ton côté, tu veux rajouter quelque chose?
J'espère que je ne vous ai pas trop endormi.
Ça n'a pas l'air. Merci beaucoup.
Merci à vous tous.